Lors de la semaine de l'UTMB, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Patrick Bauer. Patrick est le fondateur et l'organisateur du Marathon des Sables, cette célèbre course qui se déroule dans le désert marocain de 250 km en plusieurs étapes. C'est une course qui personnellement me fascine et qui me fait très très envie d'y participer un jour. Patrick est un amoureux des gens. Lors de notre échange, on a croisé pas mal de personnes qui l'ont reconnu et qui l'ont salué, remercié et qui lui ont tous dit avoir hâte de le retrouver dans une prochaine édition du Marathon des Sables. Cet enregistrement était vraiment très riche en émotions, en anecdotes. Patrick est quelqu'un de fascinant et avec qui j'aurais bien poursuivi la conversation plus longuement. Malheureusement, le temps nous était compté. J'espère que vous prendrez tout autant de plaisir à écouter notre échange que j'ai pris de plaisir à l'enregistrer. Et personnellement, j'aimerais beaucoup pouvoir poursuivre la conversation un de ces quatre avec Patrick Bauer. Prenez beaucoup de plaisir dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor.
Bon, je suis avec Patrick Bauer. Merci Patrick de m'accueillir sur le salon de l'UTMB. On est là au soleil, il fait super beau.
C'est génial, on avait peur d'avoir une météo pourrie. Et là, le soleil nous a accompagnés toute la semaine. Donc là, au bord de l'Arve, François, merci, je suis content d'être à tes côtés en tout cas. Et merci aussi de vouloir passer un peu de temps aussi pour parler ensemble, échanger.
Ben avec grand plaisir, moi le Marathon des Sables, c'est une course qui me fait de l'œil, qui m'interpelle, qui m'intrigue depuis des années et des années avec cette histoire qui fait d'elle une course mythique parmi les courses qui existent dans le monde. Mais comment elle est née, cette course?
Alors cette course, c'est bon, une histoire un peu particulière et simple en même temps. Moi j'ai traversé le Sahara plusieurs fois en véhicule, 5 fois. J'ai vécu 2 ans en Afrique de l'Ouest. J'avais un job de délégué culturel pour une librairie, et voilà, je diffusais des encyclopédies pédagogiques aux instituteurs en brousse. On portait les collections sur la tête, un peu comme dans les dieux sont tombés sur la tête. Quand tu arrives dans les villages, les enfants qui te touchent les poils, les cheveux, ils étaient plus blonds qu'aujourd'hui, mais c'était extraordinaire la relation. Et puis moi, j'adore l'Afrique. Donc, au retour de ces 2 ans passés, comme on dit, à l'appel du désert, je me retrouve chez mes parents avec mon petit frère et un matin, je dis à mon petit frère, écoute Gérald, je vais traverser le désert à pied. Il me dit, ok, rendors-toi frangin, tu as fait un cauchemar. Je dis, non, toi tu connais le magasin de photos, attends, on va te choper une caméra. Bref, je fais court, on est parti 3 semaines après. 3 semaines après, on avait une 504 Peugeot, on a traversé le désert. On est parti, et je suis parti 12 jours avec mon eau, ma nourriture, j'avais un sac de 35 kilos. Et ça a été quelque chose pour moi d'incroyable, quoi. Le vécu de l'histoire m'a beaucoup marqué et l'arrivée au temps, elle était insignifiante parce que bon, c'est la fin. Et puis j'ai eu une tendinite, mais elle s'est résorbée en 24 heures. Les mollets avaient gonflé, puis au fur et à mesure le poids du sac descendait. J'ai eu des rencontres avec des camionneurs, avec des touristes, avec une Land Rover qui revenait du Niger, qui me voit au milieu de nulle part. C'est un no man's land de 400 km où il n'y avait rien. Et moi, j'ai fait un tronçon de 350 km sur 12 jours. Et bon, j'avais un gros sac, j'ai fait que 17 km le premier jour. Je me dis, t'es un peu cinglé quand même. Mais voilà, je pense que quand on a un rêve, tout l'univers conspire pour nous aider à le réussir. Et ce n'était pas un hasard en fait. C'est qu'il y avait quelque chose derrière. L'envie après de faire partager cette aventure est arrivée ensuite au retour en montant le petit film Super 8 qu'on avait réalisé avec mon frère et l'ami qui m'accompagnait, qui me retrouvait tous les soirs au bout de 20, 30, 35 km. Ça dépendait. Je leur donnais. Alors, on n'avait pas de GPS, c'était compliqué. La nourriture, je n'avais pas de lyophilisé. Mais j'avais des petites choses qui me donnaient du plaisir. Et ça, je le dis aujourd'hui pour les coureurs, parce que c'est tellement important le soir, quand on a plein les baskets, qu'on pose son sac et d'avoir envie de manger quelque chose qu'on a sur ça. On dit, on va ouvrir ça. Moi, j'avais de tout mon menu, mais même une vache qui rit sur une petite tranche de pain avec un peu d'oignon et du sel et du poivre. Mais j'ai encore le souvenir ému de mordre religieusement dedans, comme avec... Et d'ailleurs, ces Nigériens que j'ai rencontrés, ils m'ont offert une tomate fraîche. Mais quand je t'en parle, j'en ai encore l'émotion dans les yeux. Je mords dans cette tomate. C'est quelque chose que je pourrais jamais oublier, quoi. Donc l'envie de faire partager cette expérience en créant une épreuve caractéristique proche de mon expédition, en alliant la course à pied, la marche, le désert et l'autosuffisance alimentaire. Au départ, où tout le monde il est cinglé, courir avec un sac, etc. Et finalement, ce côté expédition, ça a été une originalité qui n'existait pas. Ça a séduit des gens. Petit à petit, bah, pour 23 concurrents, les 23 pionniers de la première édition en 86, mon expé en 84. Et puis après, bah, 50, 60, 150. Et bon, jusqu'aux guerres du Golfe, c'est redescendu. Puis après, c'est remonté. Et là, on est toujours environ un millier. Bon, cette année, on va être plus proche des 750 coureurs. Il y a eu beaucoup de reports qu'on a acceptés sans frais pour 2022. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou d'autres qui ont des craintes, encore peur. Donc voilà, on est là pour être à l'écoute. Et bon, bah là, ça y est, on a fermé seulement le 21 août, les possibilités de report. Mais voilà, donc... c'est déjà bien si on part, ça va être une... Normalement, il n'y a pas de doute, mais bon, on attend toujours des confirmations. Mais même si on nous a donné du baume au cœur, les autorités locales nous ont dit oui, il faut surtout y aller, il ne faut surtout pas repousser. On est avec vous, on a besoin de vous. Ça fait vivre des familles. Et depuis un an et demi, ben, qu'il n'y a plus personne dans le sud. Voilà, donc c'est génial de retrouver tout ce petit monde-là. Tout le monde nous attend, nos frères de sable du sud, là aussi... voilà, c'est une aventure extraordinaire, franchement.
Bah en tout cas, c'est vrai que ce que tu dis résonne, parce qu'on est là, comme tu l'as dit tout à l'heure, au bord de l'Arve. On voit des gens qui t'interpellent, qui te remercient pour tout ton travail et toute l'organisation de cette course. Aujourd'hui, le Marathon des Sables, c'est 2000 coureurs qui courent, mais ça n'a pas été toujours ça, comme tu l'as dit. À quoi ça ressemblait les premières éditions?
C'était assez folklorique, hein. Déjà, on avait des tentes berbères traditionnelles, donc qui pesaient plus de 200 kilos avec les poils de chameau. Donc, et même la première édition, c'était l'autosuffisance. Mais on donnait une petite soupe le soir à la rira avec des pois chiches pour les coureurs. Donc on testait un peu le concept, l'eau, la distribution. On n'avait pas de carte. C'était la première édition, un parcours autour de Zagora. C'est compliqué, il n'y avait pas de repères. On avait des cartes au millionième. On n'avait encore pas trouvé des cartes au 100 millième qu'on a eu par la suite. C'était compliqué, mais en même temps... on a des souvenirs de ça, on se dit mais c'était le début, il fallait bien commencer par quelque chose. Et avec toute l'inexpérience qu'on avait, hein, faut pas rêver, on a appris aussi au fur et à mesure. Et même si à la première édition on avait annoncé qu'on espérait être 400 coureurs, Alhamdoulilah, comme on dit au Maroc, heureusement, parce que ça a été une cata, quoi. On a commencé 23 concurrents, l'année d'après ils étaient 62, l'année suivante 150. Il y a eu une progression régulière. Et ça nous a permis aussi à chaque fois d'évoluer. D'ailleurs, je suis super content parce que les gens, voilà, comme tu disais tout à l'heure, François, qui m'interpellent, qui viennent au stand émus, qui veulent faire des photos, qui se disent c'est la meilleure course qu'on a faite au monde, l'organisation, vous êtes tous géniaux. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus comme organisateur? Il est là notre trésor. C'est ce capital humain qu'on a construit autour de cette communauté. On est une niche dans le trail. Hein. Le trail, c'est déjà une niche dans le running. Et nous, on a trouvé notre niche. Mais voilà, on est une vraie communauté qui est solidaire, qui est fidèle. Et on a essayé, malgré tous ces confinements, ces reports, de maintenir les liens avec la communauté, avec les Waiting for the MDS, qui ont été vraiment bien vus. Et tout le monde nous en a parlé. Des défis qu'on a lancés au mois d'août notamment, au mois d'avril également. Là, on a fait un dossard à gagner hier soir. On a deux dossards sur des challenges aussi de 77 km dans le mois pour ceux qui s'entraînent. On va créer un magazine de trail de 40 pages trimestriel, MDS Mag, voilà, qui est pour notre communauté. Puis on a profité de ce temps pour être créatif, imaginatif, trouver des idées. Lancement de notre sac à dos, le Nomad Backpack, 15 mois de développement, 6 protos. On est super content du résultat, super fier, l'équipe et tous les gens qui le testent, ils disent bah, il est vraiment génial. Donc voilà, des lignes de bagagerie, le petit sac City, des licenciés aussi, avec pas mal de licenciés comme Rewan, comme Q-Love et d'autres. Donc vraiment, ça a été super. Comme quoi, les gens se sont vraiment avaient envie de se rassembler les uns avec les autres, quoi. Donc c'est tip-top, franchement.
C'est vrai que quand on vient sur votre stand, on voit qu'il y a toute une équipe, parce que bah, forcément, tu n'es pas seul pour l'organiser, ce marathon des sables. Souvent, on voit le résultat, on ne s'imagine pas vraiment le travail qu'il y a derrière. Ça représente quoi, en fait, le temps et l'équipe qu'il y a derrière le marathon des sables?
Bah, nous, on est 6 à l'année, mais on a externalisé la tâche de service de presse, la production vidéo. On a une dizaine d'ambassadeurs à travers le monde qui sont chargés, eux, de maintenir le lien avec leur communauté, que ce soit en Allemagne, au Japon, en Italie, aux États-Unis, à Hong Kong, en Angleterre, en Espagne ou d'autres. Donc ça, c'est des gens aussi qui se font partie de la famille depuis longtemps, donc qui vont aussi avec un cœur gros comme ça. Donc il n'y a rien de mieux, je veux dire, que maintenir le lien, de donner de l'attention, être à l'écoute, être dans la bienveillance, et ça les gens le ressentent, c'est les ondes électromagnétiques du cœur, ça. Il n'y a rien de plus fort que ça. Et quand on donne ces choses-là, bon, on les reçoit aussi, c'est des lois de l'univers, ça. Voilà, ce qu'on reçoit, ce qu'on sème, et ben, à un moment donné aussi, ça nous inonde de bonheur. Voilà. Et moi, je ne peux pas avoir de meilleurs témoignages que des gens que j'ai reçus sur le stand du Canada, de Hong Kong, des gens qui étaient trop contents de venir nous retrouver. Ah, vous êtes là, la présence physique, le fait de se voir. Alors, il y a les masques, mais... Bon, des fois, on a envie de faire un petit serrage dans les bras quand même, parce qu'on a partagé des émotions, la médaille, y a des tas de souvenirs. Les gens m'ont dit, mais c'est, pour nous, ça a changé notre vie, quoi. C'est une expérience qui est incroyable. Donc, si on peut la partager à d'autres et que eux soient les témoins aussi de ça, c'est difficile aussi de faire partager ce qu'on a vécu aussi intensément quand on ne l'a pas fait. Les gens qui ne l'ont pas fait ne peuvent pas le comprendre de la même manière. C'est normal. Donc, voilà.
C'est vrai qu'on en discutait un peu avant de commencer l'enregistrement, cette énergie qu'il y a sur le salon et cette bienveillance qu'il y a, cette ambiance, cette envie de se rencontrer. C'est vraiment nécessaire en fait pour le monde du trail, pour vous organisateurs qui avez envie de voir du monde.
Nous, on n'était pas présents. Je suis venu plusieurs fois parce que j'avais des copains qui couraient l'UTMB ou SCCC ou d'autres. Et puis avant, on était dans l'Ultra Trail World Tour. Bon, on a quitté parce que pour nous, c'était aussi un engagement financier important. Je pense que c'est quelque chose qui avait du sens pour des courses qui n'étaient pas du tout connues, qui démarraient. Et je pense qu'à un moment donné, quand on voyait le retour de com et l'investissement qu'on faisait, il valait mieux le mettre dans la sécurité de la course, soit pas au détriment de quelque chose, ou un petit plaisir, un clin d'œil qu'on allait offrir aux coureurs, un petit concert au milieu du désert avec un quatuor de l'Opéra de Paris. Voilà, des petites choses comme ça qui surprennent. D'ailleurs, on va faire une petite surprise cette année aussi aux coureurs. C'est comme une année anniversaire, même si on n'a pas autant de moyens qu'on avait les années précédentes. On n'a rien négligé sur la sécurité, l'encadrement, les balises satellites, les hélicos, les radios numériques. Ça, c'est le béaba, quoi, pour que les gens se sentent en sécurité. D'ailleurs, ils nous le disent, quoi, vous êtes toujours là s'il y a un problème. On a quand même une dizaine de véhicules médicalisés avec défibrillateurs, oxygène. À chaque checkpoint, c'est exactement la même chose. À l'arrivée, notre clinique des sables, bon, voilà, c'est pareil, c'est... l'usine à soins et puis le centre aussi des urgences quand il y a eu des problèmes plus importants. Et puis surtout avec nos doc-trotteurs, voilà, il y a une expérience, une complicité de plus de 20 ans et aussi une complicité entre eux et le plateau d'assistance à Paris et les assureurs qui décident, quand on demande d'envoyer un jet, qu'on a quelqu'un qui veut rapatrier, il n'y a pas de discussion, ils l'envoient, il y a une confiance, une cohésion. Et ça, il faut des années pour arriver à cette complicité. Et ça met les coureurs aussi dans une confiance totale, quoi. Je pense que c'est ça aussi, la sécurité qu'on apporte aux participants, qui a donné aussi ces lettres de noblesse au MDS.
Alors, cet argument de la sécurité, c'est primordial parce que on arrive dans un environnement qu'on ne va pas connaître bien souvent. Quel serait l'argument phare que tu donnerais à quelqu'un qui hésiterait à venir, mais qui ne serait pas encore convaincu?
Alors déjà, la sécurité, je ne la mettrais pas en premier parce que c'est déjà le rêve de nourrir une course. On n'ose pas la faire et puis à un moment donné, il se passe un truc, un déclencheur. La petite voix dit « Hey, c'est le moment, là, tu te sens prêt. » J'en ai beaucoup, il dit, c'est Patrick, ça fait 10 ans que je rêvais de... Et là, ça y est, j'ai décidé de m'inscrire. Parce que le désert, c'est un environnement qui nourrit une certaine spiritualité,
qui fait que la course, ok, il y a les difficultés, l'épreuve, le sable, les montagnes, les djebels, toutes les natures de terrain, le poids du sac, la gestion qui est fondamentale. Mais il y a aussi une connexion particulière avec l'environnement. La magie du Sahara marocain, en l'occurrence, ça nous élève l'esprit. Et puis, ça nous permet aussi de trouver des réponses à des questions qu'on n'imaginait même pas se poser avant le départ. Et ça, c'est un truc qui se passe incroyable chez chaque personne. Je dirais que c'est comme des portes de l'esprit qui étaient un peu verrouillées et qui se déverrouillent un petit peu. Quand je dis ça au coureur, des fois, il est un peu illuminé. Mais après, il me dit, mais tu avais raison. Parce que c'est aussi, en dehors de la difficulté de la course, c'est un voyage intérieur. C'est une introspection. C'est aussi des questions qu'on ne se posait pas. Et on trouve des réponses. Et on trouve un sens aussi. C'est aussi une quête. Il y en a qui le font sur le chemin de Compostelle ou d'autres. Mais le Sahara aide à révéler aussi ces choses un peu cachées à l'intérieur de nous. Et puis, il y a des amitiés qui se nouent. Des amours qui se créent, des divorces, des copains qui montent des boîtes ensemble, les meilleurs amis de la Terre. Voilà. Après, c'est ça qui est le plus important. Après, dans le contexte, les gens, je pense qu'ils le savent, que la course, ils sont suivis par satellite, qu'il y a des gros moyens, parce que maintenant, les gens le savent depuis longtemps. Donc, on ne le vend pas en premier. Mais si quelqu'un a peur, on va le rassurer. Mais tu t'inquiètes pas, on te suit. Et puis tu sais, si tu pars un peu, il y a une tempête, mais tu te barres un peu, tu quittes un peu le parcours, il y a des couloirs de sécurité. Ça bip chez nous, au PC, quand on voit, ah bah tiens, Dossard 472, Benoît, un commissaire, voilà, il est parti en tel cap, va le rechercher. Et voilà. Et puis quand il y a un problème plus important, une balise qui se déclenche, bon là on cherche même pas à comprendre. Moi j'ai mis un protocole, c'est l'hélico qui part direct avec la machine de réa et tout le tralala avec les médecins. Même si c'est pour rien, c'est pas grave si on perd une heure d'hélico, deux heures, mais on aura fait de notre mieux, tu comprends? Parce que quand tu as l'expérience d'avoir sauvé une vie à deux minutes près avec nos médecins, ou de réanimer quelqu'un à un moment donné où c'était encore possible de le faire, sinon à quelques minutes près, ben pas de retour. Franchement, je pense à Albert Vallée, dont j'ai vu sa femme à l'UTNB il y a peut-être 3-4 ans maintenant, et qui m'a serré dans les bras en pleurant. Voilà, j'y pense avec émotion parce que c'est des choses qui, nous aussi, quand on a vécu ça, tu comprends, quand on a vécu ça, et ben on va se dire, on doit faire le maximum, donner le meilleur de nous-mêmes. Pour la sécurité de... Parce que les ultra-trailers qui viennent au MDS, la moyenne d'âge est 40-42 ans. Donc en général, on est papa, on a une femme, des gosses. Et voilà. Donc c'est un devoir pour nous de les protéger de notre mieux, que ce soit avec les médecins, que ce soit avec les moyens technologiques qu'on met en place. Pour moi, c'est fondamental. Et je sais qu'il y a beaucoup de cohorts qui disent on se sent mieux en sécurité dans le désert que sur le marathon de Paris. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas faire le juge, mais tu vois, quand tu as eu des participants comme ça qui dévissent complet, que tu commences à faire les massages cardiaques, et c'est étudiant qu'il y a quelqu'un qu'on met dans le coma et qui va à l'hôpital et qui n'a aucune séquelle ni pulmonaire ni cérébrale parce que les médecins ont été au top. Donc franchement, toute l'équipe des doctrotteurs, je les salue, et je pense à Gaston, son fondateur, qui n'est plus là malheureusement. Et c'est sa femme, Anne, qui a repris la direction. Et avec notre directeur médical, Fred Compagnon, Olivier Ganansan, c'est vraiment une équipe de choc, c'est une dream team, quoi. Et voilà, je pense que c'est tellement important de continuer d'aller dans ce sens-là. Et jamais de dire, tiens, je prends qu'un hélico parce que ça va me faire des économies ou peu importe. Moi, j'ai eu des expériences où j'ai dû faire deux évasantes dans la même journée. Et j'ai eu la chance d'avoir un autre hélico de la gendarmerie royale qui nous a épaulés, qui a fait l'évasante avec un autre hélico privé qu'on avait. Et on a pu en garder un sur la course. Donc voilà, comment on peut prendre ce type de risque pour de l'argent? C'est pas possible. Après, je te dis ça, c'est fondamental. La sécurité des gens, je vois l'impact que ça peut avoir. Puis je sais que sur d'autres courses, j'ai vu des choses et je me dis, mais comment ils n'ont pas tilté que l'hélico, il ne peut pas être basé à péter au schnock. Il faut qu'il soit là. S'il y a un problème, c'est une question de timing, quoi, de réactivité et de compétence. C'est toute une chaîne, en fait. Hein. Donc ça a mis aussi du temps à arriver à tout ça. On n'a pas toujours été au top, mais je crois qu'on a eu l'hélico dès le troisième marathon des sables. On a eu des CIBI à la deuxième, évidemment. T'as pas d'argent, tu rembourses un prêt à la banque, t'essaies de trouver des sponsors, il y en a très peu parce que tu démarres. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire de ces trails qui ont pu naître grâce aussi à la volonté d'équipe de dire allez, on reste tous ensemble et on continue chaque année. Comme disait l'artiste street Banksy, que j'aime beaucoup, et qui dit les winners ne sont pas ceux qui n'ont jamais d'échecs, mais ceux qui n'abandonnent jamais. Donc voilà, je crois que ça m'a servi d'exemple aussi. Donc c'est une petite phrase que je garde quelque part, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc voilà.
En tout cas, on sent beaucoup d'émotion dans ta voix. Quand
mais il y a 35 ans de vie, 35 ans d'histoire, de personnages, d'aventures, d'émotions, de sentiments partagés, de larmes coulées sur mes épaules. Non mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est pour ça qu'on a une complicité. Je crois qu'il faut aimer les gens pour faire ça aussi. Il faut aimer les gens, il faut avoir envie de passer du temps, d'être à l'écoute, de se mettre à leur place, et les gens te font des confidences qu'ils ne feront peut-être pas à leur femme ou à leur mari, parce que c'est le moment, le désert, un moment exceptionnel de rencontre, et tu donnes 5 minutes de ton temps pour écouter, partager, souhaiter bon courage, et on se retrouve au prochain CP, et ceux qui sont en difficulté, ils savent que tu es là, pas seulement moi, mais aussi mes commissaires de course, avec les médecins, là il n'était pas bien, il y a une perf, on leur check au contrôle, et des fois on va l'accompagner les 2 derniers kilomètres pour être sûr qu'il arrive bien en bivouac. Voilà, c'est ça, être dans la bienveillance sans penser jamais à l'aspect financier. On s'en fout de ça, l'argent ça va, ça vient. Il en faut pour travailler, il ne faut surtout pas que ce soit un objectif, quoi. On investit tout dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est prioritaire.
En tout cas, à t'entendre, on a vraiment le sentiment qu'il y a un avant et un après. Marathon des Sables.
Bien sûr, moi, c'est pas à moi de le dire, hein, l'organisateur, c'est au coureur, mais c'est ce que tout le monde me révèle. Alors donc, à force, je finis par les croire. Et puis moi, modestement, j'ai eu le Marathon des Sables édition 0, c'était mon expédition. Donc il y a eu un avant et il y a eu un après pour moi aussi, parce que ça a été, ça m'a apporté tellement que je savais pas au départ que ça m'apporterait autant et que j'ai tellement été touché par ça, cette épopée saharienne, que j'ai eu envie de faire partager ça. D'ailleurs, tu sais, je travaillais dans la presse comme photographe dans un journal chez moi, Libération. Et quand je suis entré de mon expédition, il y a un autre journal concurrent qui a dit « Bauer, il revient du désert. À mon avis, il y a le soleil, il a dû griller 2-3 neurones parce que maintenant, il a envie d'emmener des gens sur ses traces. » quoi. Mais c'est normal, il n'existait rien à part le Dakar. Voilà. Bon, il se dit, il est fou. C'était précurseur, hein, d'ailleurs. Hein. Quand on voit aujourd'hui tous les équipements, les camelbacks, tous les équipements high-tech, nous, on avait les premiers, tu verras, les 5 cadeaux de 15 kilos, les premières bouteilles d'eau aussi, Dialy, qui est toujours notre partenaire, avec des bouchons, des pipettes, avec des scotch. Donc, ça a donné beaucoup d'idées aussi. Et je pense que tout ça, ça a aidé à construire ce marché d'équipement de l'ultra qu'on voit aujourd'hui. On a participé modestement, comme au développement du tourisme saharien, qui était complètement fermé. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, les ministres d'État à l'époque, qui m'ont dit « Bon Patrick, je vais voir, je te donne l'autorisation à aller découvrir des zones où on n'avait pas le droit d'aller. » Et l'année d'après, hop, comme on en parlait, que les gens, c'était merveilleux, allez, après, on donnait l'impression d'aller ailleurs. Après, les tours opérateurs, ils pouvaient aussi s'y rendre. Donc, ça suivait un peu les traces. Donc, l'économie saharienne aussi s'est développée. Donc, ça, on est heureux. Moi, c'est une petite fierté dans mon cœur de me dire, si on a pu contribuer à faire monter quelques marches comme ça dans ces différents développements, merci. C'est un beau cadeau, ça aussi, que la vie nous donne. Franchement.
Super. Merci, Patrick.
Merci à toi.
On va souhaiter une belle édition 2021.
Ouais. Et tu viens quand tu veux. Hein.
Avec grand plaisir, c'est un objectif de vie. Bon. Vraiment. On dit que les ultra-trails, c'est des tranches de vie. Et à entendre parler les coureurs qui ont participé au Marathon des Sables, on a vraiment ce sentiment qu'il se passe quelque chose, notamment dans le bivouac. C'est vraiment ce qui ressort. Il se passe quelque chose.
Mais c'est la grande différence, effectivement, avec toutes les courses non-stop. J'en ai fait, puisque j'ai créé la Desert Cup aussi en Jordanie pendant 4 ans, une année au Mali. C'était une cannonball de 13 checkpoints. Premier arrivé, moins de 24 heures, moins de 48 heures, moins de 72 heures. C'était sympa pour les coureurs, mais il y avait moins de monde et aussi la convivialité n'est pas au rendez-vous de la même manière. Parce qu'on attend ses potes à l'arrivée à la banderole, on prend les bouteilles d'eau, on a préparé le feu, voilà, pose-toi, c'est nos compagnons d'aventure. Donc, et on prépare la popote, on fait le feu le soir, on retrouve des rituels ancestraux comme ça, du feu, du thé sous l'étoile polaire, enfin c'est quelque chose de, ou la croix du sud, c'est merveilleux ces moments-là. Là, pour moi c'est un grand luxe de vivre ça. On dit ouais mais le luxe c'est pas ça, mais si, le luxe c'est aussi retourner aux origines. Et aux origines, se sentir un être humain vivant, sentir qu'on est vivant, qu'on a mal aux muscles, mais en même temps l'esprit, bon, c'est une effervescence d'émotions, de sentiments, voilà, de partage, solidarité.
Bon, eh ben, écoute, c'est une très belle conclusion. Et puis, merci beaucoup, Patrick, pour ce très bon moment d'enregistrement.
Eh ben, merci.
C'était très émouvant, vraiment.
Eh ben, il y en aura d'autres, j'espère, de tout mon cœur.
Merci, Patrick, à bientôt.
Merci, c'est gentil.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très très bientôt dans un prochain épisode.